En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Nicolas. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet essentiel pour les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises et toutes celles et ceux qui lancent un projet, le droit des sociétés et le droit des marques. Quand on crée une entreprise, on pense souvent d'abord à l'idée, au produit, au client, mais beaucoup moins à l'aspect juridique. Pourtant, choisir la bonne structure juridique, protéger le nom de sa marque ou sécuriser son activité peut faire toute la différence entre un projet solide et un projet un petit peu plus fragile. Le droit des marques, lui, concerne l'identité même d'une entreprise, le nom que l'on choisit, le logo, l'image que l'on construit. Tout cela peut et doit souvent être protégé pour éviter les copies, les conflits ou les mauvaises surprises. Pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir deux avocates du barreau du Val d'Oise, l'une qui exerce en droit des sociétés, en droit fiscal, et l'autre notamment en droit des marques, et je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour Maître Aurore Bonavia.
Bonjour Sonia.
Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation sur l'antenne d'IDFM Radio. Nous présenterons votre parcours, vous allez nous annoncer des actualités et puis nous partager des cas pratiques pour illustrer votre activité au quotidien. Merci d'être là ce matin avec nous. Et à vos côtés, Maître Christelle Niclet-Laja.
Bonjour
ma chère consoeur, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Vous êtes avocate, alors en droit des sociétés, en droit fiscal, allez nous expliquer en quoi consiste votre quotidien et comment vous avez décidé d'embrasser cette profession. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous propose donc de commencer cette émission avec un petit tour de table de mes invités, parce que nous sommes nombreux au barreau du Val d'Oise, le barreau du Val d'Oise qui est partenaire d'IDFM Radio, et lorsque je reçois certains de mes confrères, j'aime bien prendre un petit temps pour faire connaissance avec eux et qu'ils nous expliquent comment ils ont décidé de mettre cette jolie robe. Maître Aurore Bonavia, alors expliquez-nous comment vous avez décidé de devenir avocate et comment vous êtes installée à Pontoise.
Alors, écoutez, moi, c'est une passion, enfin une vocation même, parce que depuis l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, j'avais envie de faire ce métier pour des raisons personnelles. Et puis, donc, après un parcours classique, j'ai décidé de m'orienter en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, comme ça s'appelait à l'époque. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était des matières hyper intéressantes, hyper techniques, et qui venaient se fondre un petit peu avec d'autres matières, d'autres domaines. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. Et donc, j'ai commencé moi ma carrière à Paris en 2015 quand j'ai prêté serment, et puis je suis très vite arrivée dans le Val d'Oise en 2018 parce que je voulais un barreau un peu plus à taille humaine, et puis j'ai fait le choix de ce barreau effectivement aussi par proximité personnelle géographique, mais aussi surtout par rapport à sa taille.
Alors donc vous exercez en propriété intellectuelle, en droit du numérique, en droit des contrats, c'est ça ?
C'est ça.
C'est une activité, c'est une spécialité ou une activité dominante pour vous ?
Alors moi c'est une activité dominante parce que je n'ai pas bien évidemment le certificat de spécialisation qu'ont les avocats, donc j'ai pas le droit effectivement d'indiquer que je suis spécialisée dans ces domaines-là. Donc ce sont vraiment les trois activités dominantes de mon cabinet.
Alors, pour rappeler aux auditeurs, certains avocats sont spécialisés dans certaines matières, c'est-à-dire qu'ils ont passé un diplôme qui sanctionne une spécialisation et une activité dans un domaine particulier. Activité dominante, ça veut dire que c'est votre quotidien sans pour autant avoir passé encore ce fameux diplôme.
C'est ça, exactement.
Vous êtes également formatrice dans les domaines que je viens d'énumérer, donc propriété intellectuelle, droit du numérique et droit des contrats. Formatrice certifiée Calliope et DPO. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Alors, donc formatrice Calliope, ça veut dire que en fait j'ai passé donc une certification qui permet donc aux entreprises qui veulent faire appel à un avocat pour former leurs équipes, les sensibiliser notamment à tous les sujets de RGPD, de cybersécurité, de que le coût en fait de la formation soit pris en charge par leur OPCO, qui est l'organisme en fait de gestion des droits à la formation. Et donc DPO, c'est également donc un diplôme, une certification, on va dire complémentaire, qui veut dire donc délégué à la protection des données. Ça veut dire que je peux être désigné par les entreprises, les collectivités, quand c'est obligatoire, comme délégué à la protection des données.
Très bien. Et votre cabinet, il est situé à Pontoise?
Oui.
Je ne me trompe pas.
Pour l'instant,
très bien. Votre cabinet est composé d'une équipe. Vous avez du monde qui bosse avec vous?
Alors, une toute petite équipe, parce que j'ai une assistante qui est avec moi depuis 2021. Et sinon, je suis la seule avocate, effectivement, dans le cabinet.
Et vous avez aussi des activités au sein de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise?
Oui, tout à fait. Donc, je suis élue membre du Conseil de l'Ordre, donc depuis juin 2023, de mémoire. Voilà. Et donc pour expliquer aux auditeurs, en fait le barreau du Val-d'Oise est représenté par un bâtonnier et ce bâtonnier a une équipe en fait d'avocats, de confrères qui viennent en soutien pour divers sujets effectivement pour le barreau.
D'accord. Et donc vous avez quoi comme casquette? Vous occupez d'une commission ou d'un sujet particulier? Vous êtes un peu notre, je crois, référente, notamment IA, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Alors en fait, effectivement, moi je suis donc dans la commission communication numérique. Donc effectivement, tous les sujets liés à l'IA, l'informatique, les sujets de communication. Et la commission entreprise, en fait, où nous avons créé avec l'ancien bâtonnier des partenariats avec les communautés d'agglomération du territoire du Val d'Oise pour assurer donc des permanences donc à destination des chefs d'entreprise de manière bénévole pour les orienter un petit peu au premier abord et ensuite effectivement faire appel aux avocats du Val d'Oise.
Donc le barreau du Val d'Oise assure des conseils juridiques auprès des entités économiques de ce beau département qu'est le Val d'Oise.
C'est ça.
Merci à vous pour cet engagement, merci pour cette présentation. Je me tourne maintenant et je regarde, on ne le voit pas puisque on est derrière un micro, mais je regarde ma consoeur, maître Christelle Niclet-Laja, que j'ai rencontrée dans les couloirs du tribunal de commerce de Pontoise.
Alors, tout à fait.
Comment vous êtes devenue avocate, ma chère consoeur?
Alors, moi, ma passion, c'était l'écriture. Quand j'étais plus jeune, j'avais une volonté, c'était de devenir journaliste de la presse écrite en politique. Et donc, à l'époque, il fallait avoir un bac plus 2. Et je me suis rendue à la fac de Nanterre après avoir obtenu mon diplôme, parce qu'à l'époque, il fallait aller à la fac. Et je devais m'inscrire en économie, et c'était complet. Et j'ai vu une grande queue de gens qui attendaient. Et là, je me suis dit, pourquoi pas du droit? Et c'est vrai que je me suis vraiment plus dans l'étude du droit, et plus particulièrement dans le droit des affaires. Et je suis restée, voilà. Donc j'ai laissé tomber un peu l'écriture créative. Maintenant, je suis dans l'écriture plus ciblée. Mais la volonté de départ était celle de journaliste. Et puis, c'est vrai qu'avocat, c'est aussi écrire et parler. Donc ça ressemble un petit peu au métier que je voulais faire initialement.
Donc vous avez prêté serment auprès de la cour d'appel de Versailles ou Paris-vous?
Non, cour d'appel de Versailles. En fait, moi, j'ai toujours voulu intégrer le barreau du Val-d'Oise. C'était vraiment une volonté d'être dans un petit barreau à taille humaine qui nous a accueillis chaleureusement, en tout cas, à l'époque c'était un petit barreau, mais ça reste encore un barreau à taille humaine, et donc c'était ma volonté de départ et je ne l'ai pas quitté.
Et donc vous êtes installé, donc votre cabinet est situé, rappelons-le.
Je suis à Cergy, avenue de la Constellation, à Cergy.
Vous êtes associé avec...
Je suis associé avec Emmanuel Bocquet, donc on a un cabinet effectivement avec donc mon associé, une collaboratrice, une juriste et puis une assistante juridique. Voilà.
Donc vous faites du droit des sociétés, vous exercez en droit des sociétés, en droit fiscal et...
Alors moi j'ai l'examen de spécialisation que j'ai passé effectivement en 2000 et 2002. Je suis devenue spécialiste en droit fiscal et puis dans un second temps en droit des sociétés. Mais de manière générale... dans le barreau du Val d'Oise, je fais aussi le contentieux général du droit des affaires, parce qu'en fait, tout ça ramène des sociétés avec un contentieux assez fourni. Voilà. Donc, je suis vraiment dédiée dans cette problématique-là.
Donc le droit des sociétés, donc vous assistez des sociétés, des PME, des chefs d'entreprise.
Voilà, le droit des sociétés, ça peut être, on va le voir en amont, la création, les pactes d'associés qui peuvent avoir une utilité, toute la vie du droit des affaires, avec les impacts fiscaux, parce que des fois, quand on veut préparer une cession, il peut être intéressant de faire des apports à des holdings, voilà. Donc ça peut avoir un intérêt en amont de faire ce type d'acte. Et donc le droit fiscal, ça, c'est le conseil, mais aussi la défense du contribuable, vérifié qu'il y a une proposition de rectification, et on doit donc défendre soit la société, soit le particulier.
Donc merci beaucoup pour cette présentation. Donc vous êtes une spécialiste, vous avez ce diplôme-là. Je le rappelle souvent à ce micro, l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a un site internet où on peut rechercher des avocats par spécialité, par activité dominante. Donc si on tape spécialiste en droit fiscal, on tombe sur vous. En droit des sociétés, on tombe aussi sur vous. Voilà, donc si les auditeurs ou auditrices ont besoin d'un avocat, qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur ce site internet qui est actualisé, très bien référencé, et vous pouvez chercher donc des avocats par spécialité, par activité dominante ou par lieu d'exercice, puisque des fois on peut chercher un avocat près de chez soi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de poursuivre cette émission en répondant aux questions des auditeurs. À tout de suite.
C'est pas parce que je chante avec l'amour aux lèvres, c'est pas parce que je tente de caresser mes rêves, que je passe à côté des misères de ce monde. Comme toi, je sais bien que la roue est cruelle. Comme toi, à la fin, je m'y brûlerai les ailes. Qui cherche la lumière doit embrasser les ombres. Et tant pis, si je tombe, je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre en pire aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse, bien sûr mon cœur s'emballe au cri des SOS, mais ce soleil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non, je préfère me blottir contre ceux qui n'ont rien, nous aider à bâtir de meilleurs lendemains. C'est ainsi que je suis, et ça en vaut la joie. Et ça en vaut la joie. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos mille misères. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Et tant pis si j'y perds. C'est pas parce que je ris que j'en oublie nos peines, pas parce que je souris lorsque je monte en scène que je reste insensible aux laideurs de ce monde. J'aime me dire que la vie est un cadeau du ciel, et je danse sous la pluie comme une enfant rebelle, et je chante l'embellie lorsque le tonnerre gronde. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à faire l'amour en temps de guerre. C'est ainsi que j'espère.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission aujourd'hui consacrée aux droits des sociétés et aux droits des marques. Et j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro deux avocats du barreau du Val d'Oise, Maître Aurore Bonavia et Maître Christelle Niclet-Laja. Nous commençons cette deuxième partie d'émission avec Maître Aurore Bonavia. J'ai reçu des questions nombreuses des auditeurs que j'ai un petit peu synthétisées par catégorie, ce qui va vous permettre de répondre à des questions précises. J'ai donc reçu deux questions d'auditeurs concernant des actions engagées à leur encontre pour contrefaçon de marque. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce type de contentieux que vous pouvez traiter au quotidien ?
Oui, bien sûr. Je vais même parler de cas directement de mon cabinet, bien sûr, en respectant le secret professionnel. Mais j'ai eu, par exemple, deux dossiers en contrefaçon de marque dirigés à l'encontre du même client, d'accord, pour le cabinet. Donc, c'est-à-dire qu'il se faisait donc attaquer, entre guillemets, par une société concurrente qui estimait qu'il se rendait coupable d'actes de contrefaçon pour avoir utilisé deux marques différentes, deux noms, mais qui ressemblent donc aux siennes. Et le revers de la médaille, c'est que on a réussi et les deux tribunaux saisis nous ont suivis, la première affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille et la deuxième devant le tribunal judiciaire de Paris, où en fait j'ai indiqué que selon moi les marques n'étaient pas valables. Pourquoi ? Parce que les marques soutenues par l'adversaire pour moi étaient descriptives, c'est-à-dire qu'elles venaient décrire les services qu'elles proposaient. Donc bien sûr, c'est un peu compliqué là, un petit peu abstrait parce que je peux pas donner de nom, mais je vais donner un petit exemple concret. Si par exemple moi je dépose Bonavia Avocat, fatalement c'est pas avocat qui est protégé finalement, c'est Bonavia, parce que avocat pour des prestations juridiques, je peux pas empêcher vous consoeur d'utiliser le terme avocat pour votre activité professionnelle. Donc là, c'était un petit peu le même cas où il y avait pas le mot par exemple Bonavia qui n'était pas descriptif. Pour le coup, il y avait que un seul mot qui décrivait vraiment les produits et services. Et donc le message que j'ai envie de faire passer, c'est pas déjà forcément de prendre peur quand on reçoit une assignation pour contrefaçon, et aussi pour les personnes qui déposent les marques, c'est que vous pouvez très bien déposer une marque qu'elle soit utilisée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et en fait, vous pouvez vous faire annuler la marque quelques années après. Et donc un petit peu le revers de la médaille, c'est que quand on assigne, il faut aussi être sûr que la marque que l'on a choisie soit bien valable, parce que encore une fois, ce n'est pas parce que l'office qui enregistre votre marque, donc en France l'INPI, valide votre dépôt que la marque est valide au sens juridique. Donc c'est pour ça que là c'était plutôt une petite une belle victoire dans ces deux dossiers là j'avais dit au client je pense qu'on peut faire tomber la marque. Bien sûr, je peux pas préjuger en amont de ce que va décider les tribunaux, de ce que vont décider les tribunaux, mais en tout cas là le raisonnement a été suivi.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations que vous venez de nous donner.
Pour synthétiser.
Donc concrètement, un entrepreneur vient vous voir. Est-ce que vous pouvez l'accompagner pour déposer sa marque ? Et quelles précautions faut prendre à ce moment-là ?
Oui, bien sûr. Alors quand on vient me voir pour me dire j'ai l'idée d'un nom, je veux le protéger, la première étape c'est d'aller vérifier que le nom choisi soit disponible. Donc là on parle effectivement de recherche d'antériorité, mais aussi en amont de ça, un petit peu le cas que j'ai montré, c'est que le nom choisi soit valable. Et donc mon analyse va être effectivement de vérifier si le nom ne pourra pas être plus tard annulé parce que il est descriptif et donc qui ne peut pas être protégé. Et voilà. Et après, du coup, le deuxième temps, c'est la recherche d'antériorité. Je sais pas si je détaille un petit peu plus cette question-là.
On va en parler juste après. Voilà. Mais alors, du coup, l'INPI, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'acronyme de l'INPI ?
Oui, l'Institut National de la Propriété Industrielle.
D'accord. Et donc, eux, quand vous leur déposez une marque, eux, ils vous conseillent pas du tout. Eux, ils déposent ce que vous demandez de déposer. C'est bien ça.
C'est ça, exactement. L'INPI, quand vous déposez une marque, et ça, c'est souvent méconnu des entrepreneurs, souvent on me dit, ma marque, elle a été validée par l'INPI, c'est que c'est bon. Non. Eux, ils vont juste, à la limite, faire une première analyse, mais vraiment plus formelle. C'est-à-dire, est-ce que le nom choisi n'est pas à connotation raciste, discriminatoire, qui provoque, de la haine, etc. Vraiment, voilà ce qu'on appelle les l'ordre public et les bonnes mœurs, mais au-delà de ça, ils vont pas vérifier s'il y a déjà quelqu'un qui a ce nom qui est proche, ils vont un petit peu vérifier ce caractère descriptif, mais pas trop, parce que bon, c'est pas forcément dans les premières obligations de l'office. Donc vraiment, c'est pas parce que l'INPI vous a validé et enregistré votre marque qu'elle peut être valable tout au long de sa vie.
D'accord, donc on encourage les entrepreneurs qui veulent se lancer en déposant des marques à se rapprocher d'un avocat comme vous pour vérifier tous les prérequis que vous venez de rappeler à ce micro.
Oui, effectivement.
Pour d'abord, oui, être sûr de leur coût et puis ne pas être attaqué comme ça a été le cas de vos clients, n'est-ce pas ?
Exactement.
Parce que là, alors, pour délivrer une assignation, vos clients, donc ils ont été assignés, devant quelle juridiction ça se passe, ces contentieux-là ?
Alors, ces contentieux-là, c'est très spécialisé, donc il n'y a pas tous les tribunaux ne sont pas compétents. De mémoire, il y en a 10 donc en région parisienne, en Île-de-France, c'est Paris et Nanterre. Voilà. Et puis la petite subtilité en fait en droit des marques, c'est qu'on peut faire un constat par un commissaire de justice, un constat d'huissier, anciennement appelé huissier, qui peut nous faciliter la vie pour choisir en fait le tribunal compétent. Je vous donne un exemple. Le nom là de marque, il est diffusé sur internet. Je choisis un commissaire de justice qui est à Pontoise. Il va me faire le constat. Je peux saisir Nanterre parce que l'huissier de justice est dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Bon, c'est un peu technique là. On rentre un peu dans la technicité, mais en tout cas, on peut choisir entre guillemets son tribunal. Mais en tout cas, tous les tribunaux ne sont pas compétents. Par exemple, chez nous, à Pontoise, je ne pourrais jamais plaider un dossier de contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
D'accord. Donc en plus, il faut savoir où assigner. Donc c'est pas tous les tribunaux. Et vous, donc en tant qu'avocat du barreau du Val d'Oise, vous pouvez intervenir dans ces tribunaux spécialisés ou il vous faut passer par un autre confrère?
Effectivement, sur le plan technique, je dois passer par un autre confrère. C'est ce qu'on appelle la postulation. Donc, c'est-à-dire, je dois prendre un avocat inscrit dans le ressort du tribunal où mes clients sont assignés. Mais ensuite, moi, je peux gérer le fond du dossier, rédiger les actes et bien sûr aller plaider le dossier. D'où le fameux dossier à Marseille et aussi à Paris, alors même que je ne suis pas avocate dans ces barreaux-là.
Alors, je le précise, ça aussi. Alors, c'est très technique. C'est pour ça qu'on essaie de vulgariser certaines choses à ce micro. Ce que je comprends, c'est que vous pouvez plaider partout, gérer des dossiers partout, mais que pour les actes de procédure, pour certains tribunaux, vous allez devoir prendre un correspondant sur place. Si vous avez rappelé, c'est ce qu'on appelle le principe de la postulation. Merci beaucoup pour ces précisions. Un autre cas qui a été soumis à votre cabinet, une société qui a déposé une marque et un logo pour une chaîne de restauration rapide, sans recherche d'antériorité préalable, et qui s'est retrouvée confrontée à une marque antérieure et proche dans le même secteur. Vous avez eu à traiter ce type de dossier-là.
C'est ça. Donc, pour le coup, encore une fois, un même client qui a déposé donc une marque verbale, c'est-à-dire juste un nom classique, et à côté, vraiment qu'un logo. Une image. Et donc, il s'est retrouvé et avoir reçu des courriers d'avocats de deux sociétés différentes. Donc agréable. Un qui n'était pas d'accord pour le nom et un qui n'était pas d'accord pour le logo en disant nous on était là avant, on estime que c'est similaire. Le client m'a indiqué moi je ne peux pas revenir en arrière, j'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de communication, je suis en pleine franchise, j'ai beaucoup d'enseignes, etc. Et changer complètement me coûterait beaucoup trop d'argent. Donc du coup, ce qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est qu'on est rentré en négociation avec ces avocats-là qui représentent les deux sociétés en question pour dire on fait quand même pas totalement la même chose, dont il y en a une qui n'est pas encore présente sur le territoire français, donc du coup est-ce qu'on peut pas coexister, est-ce qu'on peut pas vous dire on va modifier un petit peu ça, là on va modifier un petit peu ci, etc. Est-ce que ça vous convient et est-ce qu'on peut rester comme ça, et bien sûr nous on s'engage à ne pas aller sur votre terrain, vos activités, et on reste vraiment cantonné à ce qu'on avait décidé, la restauration rapide. Donc effectivement, on est en négociation, c'est plutôt même bien parti, mais le petit message que j'ai envie de faire passer aux auditeurs, c'est que tout l'enjeu aurait été pour ce client-là, donc d'évaluer tout ça en amont. Et effectivement, le coût d'un avocat peut paraître élevé au départ, mais au final, là, il se retrouve un petit peu coincé parce que on n'est pas forcément obligé de trouver un accord. On n'est pas obligé, de trouver un accord qui corresponde à tout le monde. Et donc, potentiellement, il va devoir tout rechanger, modifier sa communication, etc., etc. Ce qui, au final, va lui coûter beaucoup plus d'argent, plus le conseil pour essayer de négocier pendant des mois et des mois et des mois. Donc, fatalement, s'il avait pu faire une recherche d'antériorité en amont, ça aurait pu éviter ce genre de difficultés.
Donc, le conseil que vous donnez, c'est aussi de venir vous voir, vous ou un avocat qui intervient dans ce domaine d'activité pour faire des consultations. J'ai un projet d'entreprise, j'ai un projet de logo, j'ai un projet de marque, je viens vous voir, vous faites une consultation juridique, c'est comme ça qu'on appelle cet acte-là, ce qui vous peut effectivement vous éviter des déboires et des frais de procédure très coûteux. C'est souvent qu'on vient vous consulter dans ce cadre-là d'ailleurs ?
C'est ça, oui, en tout cas oui, on essaye de me consulter en amont, mais je remarque quand même pas assez à mon goût, parce que justement je reçois beaucoup d'entrepreneurs a posteriori qui ont déposé tout seul et pas correctement et qui se retrouvent avec des courriers d'avocats ou de sociétés qui leur demandent de modifier. Donc c'est plutôt voilà.
Maître Christelle Niquelaja, vous vouliez réagir au propos de Maître Bonavia?
Moi, j'ai déjà eu le cas où la personne veut déposer la marque et en fait, elle est déjà protégée par une personne qui a déposé dans plein de classes, mais en fait, qui ne les exerce pas vraiment. Comment faire dans ce cas-là ?
Dans ces cas-là, effectivement, si la marque a plus de 5 ans et que la première marque qui a plus de 5 ans et qu'il n'y a pas d'exploitation sur les produits et services qu'elle a déposés, elle encourt ce qu'on appelle la déchéance. Donc, on peut faire annuler sa marque sur les produits et les services qu'elle n'exploite pas.
Et comment
procédure judiciaire.
D'accord. Voilà.
Ouais, même au micro d'IDFM Radio dans l'émission Tous les droits, il y a des consultations même entre confrères. Voilà, c'est ça l'avantage. Vous voyez, même nous, on se consulte entre nous. Donc, on invite les auditeurs à consulter les avocats quand ils ont des questions et pour sécuriser leur projet d'entreprise. Merci beaucoup pour ces précieuses précisions. De nouveau, une petite pause musicale avant de nous retrouver pour répondre à ces questions passionnantes des auditeurs. À tout de suite.
The river bends, but it don't break. The sky's gone gray, no dawn to wake.
The sky's gone gray, like a desert wind blowing up a storm. Robots on a program, going nowhere.
écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes sur IDFM Radio, vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission aujourd'hui consacrée aux droits des sociétés, aux droits des marques. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux avocates du barreau du Val d'Oise, maître Christelle Niclet-Laja et maître Aurore Bonavia. Maître Christelle Niclet-Laja. Des questions maintenant pour vous en droit des sociétés. Une première question. Lorsqu'on souhaite créer une entreprise, quelles sont les premières démarches juridiques à accomplir et à quel moment est-il utile de consulter un avocat ?
Alors, lorsqu'on souhaite créer une entreprise, effectivement, va se poser la question qui est primordiale du choix du statut. Les gens viennent souvent nous voir pour avoir des conseils et c'est bien utile pour le choix de la forme sociale qui est primordiale. Est-ce que je vais privilégier une entreprise individuelle ou est-ce que je vais déjà préférer la forme sociétale ? Là, l'avocat va expliquer à son client que l'entreprise individuelle n'est pas de nature à protéger son patrimoine privé et que la société, elle, si on choisit une forme à responsabilité limitée, présente l'avantage d'offrir une opacité, en tout cas une séparation des pouvoirs entre la société et celle de l'entrepreneur individuel. La société permet également d'être associée avec d'autres personnes, ce que ne permet pas l'entreprise individuelle. Donc c'est vrai que ça peut être déjà un premier choix, est-ce qu'on va vers une société ou pas ? Ensuite, le choix de la forme sociale est important aussi. Je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui était venu me voir, qui avait créé des SCI pour faire de la location meublée, eh bien c'est strictement impossible, parce que la location meublée a un objet commercial, en fait, et une SCI doit avoir un objet civil. Si la SCI fait des meublés, eh bien, elle encourt la nullité, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir ensuite, par la suite, lors de la revente du bien. Voilà un des cas importants. On vient me voir aussi également, mais ça, je pourrais peut-être en parler dans un second temps, de savoir si on préfère une SARL ou une SAS. Ça, c'est important aussi, notamment si on est tout seul et qu'on fait le choix de l'EURL. Si on ne pense pas à opter pour l'impôt sur les sociétés, on va être personnellement imposé sur tous les résultats de l'entreprise. Donc tout ça a une vraie importance de stratégie avec le conseil qui va regarder les cotisations qui seront susceptibles d'être encourues dans une ou l'autre des structures et qui va avec son client déterminer le choix le plus adapté, qui va regarder également s'il est nécessaire dans le cadre d'une association de plusieurs personnes de préserver la bonne entente de cette association et la sérénité de l'entreprise par la rédaction d'un pacte d'associés. Donc tout ça, c'est vrai qu'il est souhaitable en amont, évidemment, d'aller consulter une personne dont c'est le métier, en fait.
Mais effectivement, alors il fut un temps, mais peut-être que je me trompe, hein, il fut un temps où les comptables pouvaient faire ce genre de consultation, non ? Mais je sais pas si ça se fait encore, parce que ça me semble quand même des questions très techniques, du juridique, du fiscal. Enfin, c'est...
Oui, alors après, chacun a sa pierre à l'édifice. Mmh. Le comptable, je dirais que c'est peut-être plus le généraliste en droit des sociétés. L'avocat, non, c'est la spécialité, a aussi... Le second versant, c'est quand il y a des problèmes. Donc nous, oui, on sait anticiper les problèmes parce qu'on les connaît, les problèmes. On les connaît devant les tribunaux. Et donc, je pense qu'on est plus à même à ce sujet-là de pouvoir les anticiper.
Parce que c'est une question, enfin, le choix de la structure, enfin, de la forme juridique, c'est fondamental. C'est quand même the big question avant de commencer une activité, quand même.
Tout à fait, oui.
Et en fait, on a toujours peur de penser à ce qui va mal se passer, mais en fait, je crois qu'il faut penser à ce qui pourrait mal se passer dans le cadre de son activité pour mieux peut-être aussi
choisir.
Pour mieux
l'anticiper, ouais. Voilà, et avoir les clauses contractuelles qui permettent de pallier à ces difficultés que l'on pourrait rencontrer dans l'exercice du pacte social.
Donc, vous accompagnez pour la détermination du statut juridique. Est-ce que vous rédigez aussi les actes constitutifs?
Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, on rédige et on obtient jusqu'au CABIS avec les démarches auprès de la Chambre de commerce également ou de la Chambre des métiers suivant la nature de l'activité exercée.
Est-ce que l'enregistrement d'une société, ça a d'être devenu un vrai casse-tête, non? J'ai l'impression que c'était plus simple à une époque, non? Il n'y a pas un bureau unique ou un guichet unique,
oui,
maintenant?
Oui, tout à fait. Maintenant, on a un bureau de formalité qui est l'INPI. Hein, et voilà, c'est un passage obligé. C'est ensuite envoyé au greffe qui traite les dossiers séparément.
D'accord, bah merci pour toutes ces précisions.
Merci.
Donc je recommande vivement à toute personne susceptible d'avoir un projet professionnel et qui se pose la question de quel statut, quelle forme de société, de s'adjoindre les conseils d'un avocat spécialiste, idéalement, ou dont c'est l'activité dominante. Et il y en a sur le barreau du Val d'Oise. Et je le rappelle encore, vous pourrez trouver les coordonnées de ces avocats sur le site de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise. Merci à vous. Une nouvelle question pour vous, maître Christelle Niclé-Laja. Je la retrouve, elle est là. On entend souvent parler de différentes formes de sociétés comme la SARL ou la SAS. Dans un cas concret, comment un entrepreneur peut-il savoir laquelle choisir? Parce que c'est quand même SARL et SAS, c'est quand même les modèles qui sont peut-être le plus souvent choisis par les entrepreneurs, non?
Tout à fait. Alors là, ce choix, il va se faire vraiment de concert avec la personne en fonction de ce qu'il projette dans sa société. À titre d'exemple, la SAS offre déjà une beaucoup plus grande liberté contractuelle que la SARL, donc il est possible d'intégrer toutes les clauses que l'on veut. En fait, la SAS, elle n'a comme minima que d'avoir un président et puis d'avoir des règles en ce qui concerne les transformations de la société, mais sinon tout reste possible. On peut insérer des clauses de diverses natures, de nature à protéger justement le pacte social. Maintenant, la question que nous, on va poser, c'est est-ce que, par exemple, l'entrepreneur souhaite se rémunérer ou pas dans l'activité? Donc, quel va être le choix fiscal et social? Parce qu'un gérant qui serait majoritaire dans une SARL aurait le statut travailleur non salarié, donc avec une moins grande protection au niveau de la retraite, mais en revanche des cotisations sociales qui sont beaucoup moins importantes. Et c'est vrai que si l'idée de départ, c'est d'aller vers une préservation du patrimoine de l'entreprise, eh bien, il vaut peut-être mieux aller sur ce statut SARL, parce qu'on a des cotisations de 45%, à l'inverse du président de SAS, qui, lui, est assimilé salarié avec les cotisations qui sont plutôt de l'ordre de 80%, donc beaucoup plus élevées. Donc, chaque chose est différente. En revanche, si la volonté n'est pas d'avoir une rémunération salariée, mais d'avoir une rémunération sous forme de dividendes, là, les choses sont différentes. Parce qu'en revanche, les dividendes sur le président de SAS sont exonérés de cotisations sociales, à l'inverse du gérant majoritaire TNS, qui, lui, se voit frappé de cotisations sociales sur tous les dividendes qu'il fait. Donc tout ça, c'est un choix qu'on va déterminer en expliquant aux dirigeants ce qu'il faut faire. On a par exemple des gens qui nous disent « moi j'ai le chômage mais je veux créer mon entreprise ». Eh bien, il y a ce choix de la SAS qui permet d'acter dans un PV qu'on ne sera pas rémunéré et de plus tard prévoir des dividendes. On peut continuer de se faire apercevoir le chômage.
Donc c'est vraiment du travail sur mesure que vous faites.
Hein,
vous n'êtes pas. Alors j'en parle, mais bon, ça va devenir un jour mon meilleur ami. Mais ChatGPT, quoi, vous vous adaptez quand même à la
volonté de notre client. Et c'est pour ça qu'on a souvent des consultations qui sont assez longues pour déterminer le choix le plus adapté.
Oui, parce que voilà, vous, que vous soyez marié, pas marié, enfin j'imagine qu'il y a tout, voilà, tout est un sujet,
voilà,
en fait.
Voilà, le choix du conjoint est aussi important, parce que le conjoint en SARL devient ipso facto associé, on est obligé de l'interpeller. Et on ne peut pas céder les parts sans avoir l'accord du conjoint de la SARL, à l'inverse de la SAS. Donc tout ça, tout a une incidence, en fait.
Oui, donc voilà. Quand vous posez des questions à vos clients, vous attaquez aussi la vie perso, vous posez des questions aussi là-dessus.
Bon, personnel, on reste quand même dans le domaine patrimonial. Voilà. Mais c'est sûr que si on est dans un cas de futur divorce, eh bien, on peut effectivement regarder ça.
D'accord, bah merci pour toutes ces précisions. Alors, je le dis souvent, mais les consultations juridiques chez les avocats, ça peut avoir un coût, mais on le fait tout le temps à chaque émission. Je rappelle que souvent, on souscrit sans savoir des assurances protection juridique auxquelles on cotise chaque mois. Et on a le droit d'ailleurs d'avoir, parce qu'on cotise chaque mois à ces contrats d'assurance protection juridique, une prise en charge même partielle des frais d'avocat. Est-ce que vous mobilisez souvent l'une et l'autre, ces contrats de protection juridique pour vos clients, Maître Aurore Bonavia?
Oui, bah pas plus tard que hier justement, on me demandait si comment fonctionnait la protection juridique, et effectivement avoir effectivement le contrat, parce que souvent les protections juridiques sont actionnées quand il y a un contentieux, c'est-à-dire quand on est devant le tribunal judiciaire, mais il y a des contrats d'assurance, pour l'avoir découvert avec certains clients, qui ont des enveloppes de conseils juridiques tous les ans. Voilà. Donc après, il faut se renseigner auprès de sa protection juridique, de ses assurances, voilà.
Ouais. Oui, moi c'est plutôt effectivement à l'occasion d'un contentieux, on demande au client de vérifier qu'il n'a pas de protection juridique ou qu'il n'a pas la possibilité aussi d'obtenir l'aide juridictionnelle, parce que ça peut se faire aussi dans ce cadre-là. Donc c'est des choses qu'on voit, je dirais, plus à l'occasion d'un contentieux. Il me semble que la plupart des protections juridiques sont plutôt tournées vers le contentieux que le conseil.
Il y en a une en tout cas qui quand même propose...
Oui, maintenant, beaucoup le proposent. Alors bon, le forfait est très bas. Mais je veux dire, il y a toujours une petite enveloppe. Après, ce que font souvent les protections juridiques, c'est qu'en interne, ils ont toujours un juriste qui fait une petite étude, voire une première mise en demeure. Et après, si ça ne fonctionne pas, on actionne. C'est un peu la... Mais en tout cas, voilà, le message à l'attention des auditrices et des auditeurs, c'est de vérifier s'ils ont un contrat de protection juridique et s'ils peuvent l'actionner dans le cadre d'une consultation avec un avocat. Ou malheureusement, si c'est déjà au contentieux, est-ce qu'il y a une grille pour le contentieux? Merci pour toutes ces précisions. Un petit peu de musique avant de poursuivre cette émission passionnante mais très technique avec nos deux avocates du barreau du Val d'Oise. À tout de suite.
Ta peau glisse sous mes doigts. IDFM, 98FM.
Vous écoutez IDFM Radio, l'émission Tous les droits, une émission juridique consacrée aujourd'hui aux droits des sociétés et aux droits des marques. Je suis avec deux consoeurs, deux avocates au barreau du Val d'Oise, Maître Aurore Bonavia et Maître Christelle Niclet-Laja. Maître Aurore Bonavia, on vous retrouve pour évoquer de nouvelles questions concernant votre domaine de compétences. Est-ce que l'IA peut créer une marque protégée?
Très très bonne question. Très très bonne question qui arrive de plus en plus dans mon cabinet. Alors, l'IA peut créer une marque? Oui. La protéger, c'est moins sûr. Mm-hmm. J'explique. Déjà, quand vous utilisez des outils d'IA, il faut aller lire les petites lignes que vous cliquez souvent, j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation et que vous n'allez jamais lire. Et la première, souvent à 99,9%, tous les outils que vous utilisez d'IA, déjà, vous disent qu'ils ne vous confèrent pas de droits de propriété intellectuelle sur les résultats. Premier point. Deuxième point, déjà, la réglementation française et même européenne à ce stade précise que les droits attachés à une création, et notamment les droits d'auteur, ne peuvent pas être obtenus par une intelligence artificielle. Il faut que ce soit, il faut qu'il y ait un apport humain. Donc déjà, deuxième point. Troisième point, et aussi un des plus importants, c'est que l'IA, pour fonctionner, elle va avoir besoin de données pour s'entraîner et pour vous sortir un résultat. Et vous n'êtes pas en fait à l'abri, puisque l'IA va piocher sur l'internet et quand elle va piocher sur l'internet, il est difficile pour elle de classer ça c'est protégé, ça c'est pas protégé, ça je peux l'utiliser, etc., etc. Donc il y a même un risque que la marque qui vous allez créer, le logo, le nom, etc., avec l'intelligence artificielle, soit finalement une copie de quelque chose qui existe déjà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que l'IA peut-elle créer une marque protégée? J'ai envie de dire non, sur le principe. Après, on va pas vous interdire, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous allez déposer la marque auprès de l'INPI, elle va pas s'amuser à regarder si ça a été créé ou pas par l'IA, s'il y a un risque ou pas. Donc sur le papier, vous pouvez très bien la déposer et la protéger. C'est que en cas de difficulté, en cas de conflit, que là les problèmes vont se poser. Et pour vous présenter un petit cas qui est apparu un petit peu dans la presse spécialisée, c'est qu'il y a une société anglaise qui cherchait une idée pour sa communication pour promouvoir ses boissons énergisantes, etc. Et puis l'IA lui a généré une image. Donc en fait, c'est un fond sur un fond coloré. Il y a ses boissons au milieu et puis on voit quatre mains avec les boissons qui sont tenues dans les mains. Et en fait, petite surprise pour elle, une autre société l'attaque en lui disant moi c'est ma photo en fait, moi j'ai utilisé le même principe, mais moi j'ai fait appel à un shooting, enfin un professionnel, j'ai mis je ne sais pas combien d'euros pour payer cette campagne, et ça s'était bien terminé parce que la société a dit mais à culpa, moi j'ai utilisé l'IA, je voulais pas du tout, enfin je savais pas que c'était à vous, je change ma communication, il y a pas de souci. Mais voilà les risques aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et encore hier, j'étais en consultation et une personne me dit j'ai créé une mascotte pour mon livre, je veux la déposer. Ok, première question, vous l'avez créé comment? Avec l'IA, etc. Et donc les mêmes questions vont se poser, c'est attention déjà, êtes-vous sûr que vous pouvez le déposer, parce que les outils peuvent vous interdire de le déposer. Est-ce que vous pouvez en faire un usage commercial? Là aussi, il y a beaucoup d'outils qui vous interdisent, avec les résultats de l'IA, d'en faire des usages commerciaux. Et après, est-ce que je suis pas moi-même coupable de contrefaçon de quelqu'un parce que ça ressemble étrangement à ce qui existe déjà et qui est protégé déjà par quelqu'un? Donc voilà, donc sur le papier, oui, vous pouvez déposer, parce qu'on va pas forcément vérifier. Mais il y a quand même de gros, 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 gros risques.
D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut s'aider, on peut s'inspirer avec l'IA, mais après, faut personnaliser le truc, quoi. Globalement, non, c'est...
Oui, alors, même ça, c'est compliqué, parce que je vois pas comment, quand on vous génère une image, vous dire, je vais changer deux, trois éléments sur l'image et ça suffit. Non, comme je dis toujours à mes clients, on n'est pas sur le jeu des 7 différences comme on était enfant. Souvent, on me dit, maître, il y a moins de 7 différences, donc c'est bon. c'est pas une contrefaçon. Non, non, il y a pas de règle. C'est une impression d'ensemble.
C'est une impression d'ensemble. Je me rappelle de ce concept.
C'est ça.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, là hier, la personne en question, c'était sur un animal. Elle avait créé un animal. Elle me dit bah regardez, j'ai modifié l'ergonomie des oreilles. Les pattes, elles sont un peu plus fines. Le truc, machin. Oui, bon, ok, mais il faut vraiment, voilà, que l'impression d'ensemble soit différente. Donc voilà.
En cas de contentieux, c'est ça qui regarde le juge, c'est l'impression d'ensemble.
Donc
il va pas faire le jeu des 7 différences que vous expliquez.
C'est ça. D'accord. En fait, il va quand même regarder, on va aller pointer les ressemblances, les différences, mais c'est le résultat pris dans son ensemble. Est-ce que cela suffit à considérer que c'est similaire ou pas?
Donc moi, ce que je comprends, c'est que à l'époque, quand il y avait des étudiants qui faisaient de la PI, on les regardait, propriétaires intellectuels, on les regardait comme des ovnis. Et en même temps, je me dis maintenant, c'est vous qui allez avoir beaucoup, beaucoup de travail en fait.
C'est ça.
C'est votre moment là, avec le développement de l'intelligence artificielle.
Exactement.
Bon, donc attention à l'utilisation de cet outil séduisant qui nous fait gagner beaucoup de temps, mais qui peut nous en faire peur et nous faire perdre aussi de l'argent. Donc merci pour toutes ces précisions et ces rappels très importants. Deuxième question après cette nouvelle pause musicale, une nouvelle question pour vous. Qui doit déposer la marque? Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est le dirigeant?
Oui, alors c'est vrai que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment quand on vient me voir pour déposer la marque après avoir donc fait la recherche, etc. La question que je leur pose, c'est qui voulez-vous qui dépose? C'est-à-dire vous, personne physique, le chef d'entreprise, ou la société qui va exploiter derrière? Et à chaque fois, on me dit, quelle est la différence? À quoi ça sert? Déjà, il y a des questions d'enjeux, et du coup, ma consoeur pourra, je pense, aussi le préciser. Quand on est tout seul, ou quand on est plusieurs associés, ou même quand on est même au début tout seul, mais qu'on veut peut-être se développer plus tard, le fait que ce soit le dirigeant seul qui dépose, ça lui garde une sorte de pouvoir, en fait, sur sa société, parce que c'est lui qui est peut-être à l'origine du concept, voilà, du modèle économique, etc. Ça peut aussi avoir des avantages comptables et fiscaux. Pourquoi? Parce que au démarrage, comme l'a rappelé ma consoeur, des fois on se rémunère pas forcément, on sait pas trop, etc. Que si c'est le dirigeant qui va déposer la marque, il va donc donner en licence, donc sous forme de contrat, à la société qui est la sienne, d'accord, pour que il autorise la société à exploiter derrière, parce que c'est pas lui tout seul qui va l'exploiter, c'est sa société derrière, et la société peut lui reverser ce qu'on appelle une redevance, donc une somme d'argent pour ce service-là du droit d'utiliser la marque. Et donc il faut faire après des calculs et des jeux, j'ai envie de dire, de simulation par rapport à son impôt sur le revenu personnel, par rapport aux charges de la société, par rapport à l'impôt de la société, et voir si c'est avantageux de faire ce système-là. Donc il y a un côté un peu stratégique, d'accord, sur l'aspect quand je m'associe ou pas, ça me garde une sorte de pouvoir. Et il y a aussi le côté fiscal et comptable, avec ce petit schéma, ce petit jeu. Donc moi, je suis toujours là pour dire je conseille, mais après je redirige vers des confrères en droit des sociétés et en fiscalité, peut-être même en partenariat avec l'expert comptable de la société pour qu'ils fassent des simulations et qu'ils voient si c'est possible ou pas.
Donc voilà. Vous travaillez aussi en partenariat avec d'autres confrères et les comptables, comme vous le dites.
En fait, c'est
une équipe autour d'un projet professionnel, quoi.
Oui, clairement, parce que quand on parlait du choix de la marque tout à l'heure, du nom, et quand ma consoeur parlait l'immatriculation, la création de la société, on en revient au même, le choix du nom. Moi, je suis pas du tout qualifiée pour rédiger les statuts, les pactes d'associés, déposer tout ça. Mais par contre, si on vient me dire, ma consoeur, est-ce que vous pouvez vérifier que le nom là de la société n'est pas similaire à un autre nom, là effectivement je peux également intervenir.
Merci pour ces précisions. Donc on peut aussi avoir affaire dans le cadre d'un projet professionnel à plusieurs interlocuteurs. D'ailleurs, c'est plutôt rassurant quand un avocat dit je vais envoyer chez quelqu'un parce que je ne sais pas faire, plutôt que de dire je fais tout. Bon, ça arrive, il y a aussi des pratiques comme ça chez nous, mais en tout cas donc merci pour ces rappels extrêmement importants. Je vais poser ça là parce que je pense que c'est le moment d'en parler. Donc vous venez souvent à la radio parler d'autres activités, vous faites des consultations, etc. Est-ce que vous avez un autre moyen, comme un podcast par exemple? Je crois que vous avez créé un podcast pour parler de toutes ces questions fort techniques.
Tout à fait, j'ai sorti donc mon podcast en janvier qui s'appelle Ma marque, mon trésor, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qui permet de vulgariser, de dégrossir effectivement le droit des marques. Il y a aussi un épisode spécial sur l'IA, un petit peu sur le droit d'auteur aussi, mais vraiment quand même focus sur le droit des marques pour sensibiliser les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à l'importance de la marque pour leur entreprise, pour la penser vraiment comme valorisation. Et je suis là pour effectivement dégrossir et vulgariser avec des mots simples et moins techniques auprès des chefs d'entreprise.
Donc un podcast disponible sur les plateformes d'écoute. Vous êtes aussi, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram,
LinkedIn. On peut me retrouver où je diffuse régulièrement, je publie régulièrement des conseils sur ces canaux, effectivement, sur ces réseaux sociaux.
Parce que vous êtes aussi un chef d'entreprise, on l'oublie, mais les avocats ne sont pas que derrière leur bureau ou devant les tribunaux. Ils sont aussi des chefs d'entreprise qui doivent développer leur activité, communiquer sur leur activité. Est-ce que vous vous servez de l'IA justement pour gérer votre communication, vous ?
C'est ça. Oui, je me sers de l'IA, même juridique, hein, parce qu'il existe des outils d'IA juridiques performants. Et je l'utilise pour ma communication, pour le développement de mon cabinet, pour des choix business, stratégiques, etc. Donc oui, je l'utilise, bien évidemment. Alors avec parcimonie, hein, parce que ça reste un outil, mais en tout cas, c'est une aide. Voilà.
Merci pour ces informations et cette actualité en partenariat avec le Barreau du Val d'Oise. Allez, un petit peu de musique et on se retrouve avec mes invités pour poursuivre cette émission en droit des sociétés et en droit des marques.
Lágrimas no teu olhar, um oceano de tristeza que irradia atrás e da bruma. Entendo sua dor, em cada gota um poema. O futuro e o presente finalmente se desejam.
Bien sur IDFM Radio.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Je reçois aujourd'hui deux avocates du barreau du Val d'Oise qui répondent à vos questions en droit des sociétés et en droit des marques. Nous poursuivons cette émission avec Maître Christelle Niquelaja qui répond à de nouvelles questions des auditeurs que j'ai synthétisées et que j'ai reformulées avec mes mots à moi pour aborder des questions un peu plus générales en droit des sociétés. Les litiges entre associés semblent être assez fréquents dans la vie des entreprises. Quels sont les conflits que vous rencontrez le plus souvent et comment peut-on essayer de les éviter ou de les résoudre ?
Alors effectivement, c'est un grand motif de litige devant les tribunaux de commerce, mais aussi de raison de consulter un avocat. Moi, il m'est arrivé souvent de recevoir en mon cabinet des personnes qui se sentaient flouées, lésées, où ils estimaient en tant qu'associés qu'il y avait un manque de transparence dans la tenue des comptes, des malentendus, des suspicions. Il y avait un différent sur la tenue de la politique de l'entreprise. Et si on n'a pas anticipé en amont ces causes de conflits, il ne reste que le choix judiciaire. Alors, la première des choses, c'est de l'anticiper en amont, puisque, comme on l'expliquait tout à l'heure, on peut, via un pacte d'associés ou via des statuts, mais davantage un pacte, essayer de régler de manière conventionnelle les hypothèses de mésentente ou de sortie en cas de volonté de partir. C'est souvent que, en fait, les personnes viennent nous voir parce qu'ils sont associés à 50-50, mais ils ne veulent plus rester dans ce schéma-là. Eh bien, si rien n'est prévu, on va totalement au blocage de l'entreprise parce qu'on ne peut même plus approuver des comptes, on ne peut plus nommer ni même révoquer un gérant, on ne peut plus rien faire, l'entreprise est totalement paralysée. Et c'est vrai que les clauses conventionnelles qui permettent des sorties, alors je pense par exemple à des clauses qu'on appelle de buy or sell, de clauses de sortie alternative. Ces clauses, par exemple, elles permettent de dire ben, je t'achète à tel prix tes actions, puisque nous n'avons plus de volonté de nous associer. Si tu n'es pas vendeur, tu seras obligé en revanche de m'acheter les actions au même prix. Voilà ce type de clause qui permettent de sortir d'un conflit. On peut prévoir des clauses de retrait, de capacité de retrait, avec, pourquoi pas, il m'est arrivé de voir des packs d'associés disant que s'il y avait un retrait, il y aurait un paiement, une évaluation de la valeur des parts, mais qui serait retraité, puisque c'est l'associé qui veut partir, et effectivement, faut pas qu'il perçoive 100% de la valeur des titres, et donc il y a un abattement sur ces valeurs de parts. Tout ça, ça peut être prévu en amont. Quand ce n'est pas prévu en amont, bah, malheureusement, il faut aller devant les tribunaux. Je reçois assez régulièrement, donc je vous disais l'hypothèse d'associer à 50-50 où la société est totalement paralysée. Eh bien, il y a différents outils juridiques en matière de droit des sociétés qui s'offrent à nous. Celle de demander la dissolution de l'entreprise, donc c'est un vrai impact, mais pour défaut d'affectio societatis, puisque en réalité, quand on s'associe, il doit y avoir une volonté de rester associé, une volonté d'être associé ensemble. Et le Code civil prévoit que si on n'a plus cette volonté de s'associer, on appelle ça en latin l'affectio societatis, on peut demander la dissolution de l'entreprise. C'est le cas le plus extrême. On peut aussi, avant d'aller demander la dissolution de l'entreprise, demander soit une médiation. Il faut savoir que le barreau du Val d'Oise, notamment, a un service de médiation qui est très développé. Nous avons un centre de médiation et ça marche souvent très bien dans ces domaines-là. En contentieux commercial, il y a souvent de très bons retours. Donc, la première des choses, la médiation. Soit, deuxième champ d'action, nous placer sous la protection du tribunal de commerce. Et là, on peut demander la nomination soit d'un administrateur ad hoc, soit carrément d'un administrateur provisoire qui va être chargé de gérer, excusez-moi, l'entreprise à la place des associés. Et donc, là, on serait dans une solution plus extrême, en fait. Excusez-moi, je tousse un peu. Voilà. Donc, voilà la solution de résolution des conflits qui peut être, dans l'absolu, judiciaire, mais qui suppose d'avoir une ligne de conduite qui est souvent assez extrême.
Alors justement, c'est ce que je disais, c'est en fait quand on crée une société, faut penser à quand ça va mal, hein, pour choisir les bons statuts juridiques, prendre des décisions assez éclairées. Et puis quand ça se passe mal, quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on parle aussi d'un divorce, un peu des situations quand même difficiles que vous devez gérer, avec dans les cas où on arrive à rétablir un dialogue, des médiations qui peuvent s'avérer bénéfiques, mais sinon en cas de blocage. Il faut aller devant le juge. Est-ce que vous, avant d'ailleurs de faire appel à la médiation ou d'aller au contentieux, vous pouvez, vous, dans le cadre de votre exercice, encourager des rapprochements, signer des accords
Oui, bien, c'est vrai que ça, c'est un peu le jeu de l'avocat, c'est-à-dire que l'idée est de faire une première lettre et d'inviter la partie adverse à prendre lui-même son conseil.
Oui.
L'intérêt, c'est que dans ce cas-là, tous les échanges que l'on va avoir avec la partie adverse, mais via les avocats, tous les échanges vont rester totalement confidentiels. Et là, on va pouvoir avancer. Alors, c'est vrai que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. L'idée, c'est d'essayer de mettre la pression sur le camp adverse en disant « si vous me rachetez pas les parts, je saisirai le juge, je demanderai à ce que vous soyez sanctionné pour certains types d'abus, je peux demander aussi, moi, en tant qu'associé, à avoir une évaluation, une expertise de vos comptes par un expert. » Donc tout ça, c'est effectivement une pression qui est possible. Et souvent, on arrive par ce biais-là à trouver des formes d'entente, de sortie. Mais chacun doit y laisser un petit peu de plume, hein, malheureusement, parce que ça n'a pas été prévu. Et c'est vrai que ça, c'est notre rôle d'avocat, c'est de dire que la concession, elle doit se faire de manière réciproque. Et il faut le faire entendre à nos clients, qui souvent, au tout départ, ne veulent rien lâcher.
Oui,
et puis, on arrive quand même à pouvoir faire entendre que l'accord, et notamment en droit des sociétés, la volonté de trouver une solution suppose que chacun lâche un peu du lest.
Les concessions réciproques qu'on doit faire aussi dans la vie, notamment la vie de couple, quand on voit les concessions réciproques, c'est des termes qu'on emploie aussi en contentieux du droit de la famille dans le cadre des divorces. Ouais, c'est pour ça que je fais ce
tout
parallèle un petit peu là. Alors, on parlait des litiges entre associés. Nouvelle question, si une entreprise a cette fois un conflit avec un client, un fournisseur ou même une autre société, vers quel tribunal doit-elle se tourner et comment se déroule la procédure?
Alors, le tribunal, si la personne, l'adversaire est commerçant, ça sera le tribunal de commerce, avec la nécessité de faire appel à un avocat au-delà d'un contentieux de 10 000 euros, ça c'est obligatoire maintenant, même devant le tribunal de commerce. Si la personne n'est pas commerçante, ce sont les tribunaux civils, donc tribunal judiciaire pour des contentieux supérieurs à 10 000 euros. Et donc, les tribunaux sont effectivement là pour trouver une solution de sortie.
Alors, je précise que le tribunal de commerce, donc ce sont des magistrats qui ne sont pas des magistrats professionnels. Hein, ils sont élus, je crois, c'est ça, ou par les je ne sais plus s'ils sont élus ou pas par les.
Ils sont élus, oui,
ils sont élus, hein, c'est ça.
Des personnes qui sont élus, je crois, par des organisations interprofessionnelles,
c'est ça.
Et qui agissent de manière totalement bénévole.
Voilà, donc ce ne sont pas propres. Ils ont des formations juridiques, mais ce ne sont pas des juristes.
Oui, mais ça peut être aussi des commerçants, mais qui en amont, effectivement, ont été en formation au tribunal de commerce.
Voilà, donc un tribunal de commerce avec cette particularité-là, de magistrat non professionnel, avec des audiences audiences, parce que les audiences, avant d'être jugées, il y a les audiences de mise en état pour les contentieux avec représentation obligatoire, c'est ça?
Alors, ça dépend du choix de l'action. Si on est dans une situation d'urgence, eh bien, on peut demander au président du tribunal de commerce d'obtenir ce qu'on appelle un jour fixe. Si on est sujet à des contestations sérieuses, on peut demander à traiter cette affaire en extrême urgence. En revanche, si on est aussi sur une situation d'urgence, mais où l'application du droit ne va pas poser de difficultés, on appelle ça l'évidence, on peut aussi trouver la solution du référé, qui est une solution rapide pour toutes les autres affaires qui ne seraient pas urgentes et qui nécessiteraient un débat. On est sous une forme de circuit de mise en état avant l'audience de plaidoirie.
Merci pour toutes ces précisions. Avant de nous quitter, Maître Aurore Bonavia avait un petit message ou une petite actualisation, update comme on dit, concernant l'IA. Alors c'est le sujet du moment et ça concerne tout le monde, partout, mais vous avez envie de nous faire voilà une petite actualité concernant les États membres, n'est-ce pas?
C'est ça. Mais alors en fait, on en a déjà parlé hein, de l'intelligence artificielle et de voilà, est-ce qu'on peut obtenir des droits quand je crée quelque chose avec l'IA? Et donc à ce jour en France, en tout cas, la législation ne le permet pas. Et en tout cas, je voulais vous partager deux décisions. D'une part, effectivement, d'un tribunal en Allemagne et de la Cour suprême aux États-Unis, qui ont refusé effectivement d'octroyer des droits de propriété intellectuelle attachés à une image créée par une IA. Par rapport à l'Allemagne, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un droit de propriété intellectuelle, un droit d'auteur, il faut un apport humain. Et pourtant en Allemagne, ils ont essayé d'expliquer que la personne avait très bien prompté, avait fait voilà, c'est pas juste de contenter et de dire à l'IA crée-moi un logo pour une marque de vêtements par exemple. Il a vraiment fait un prompt assez long, technique, etc. Et malgré tout, le tribunal allemand a considéré que effectivement il n'y avait pas d'apport suffisant humain. Donc c'est ça un petit peu le message que je voulais faire passer, c'est attention effectivement à tous ces outils-là, parce qu'il y a un côté aussi un peu effectivement créatif qui commence un peu on se pose des questions. Nous, tant juristes, avocats, mais aussi de manière générale de toutes les professions artistiques. Quid demain de la création si on fait tout par IA? Donc il y a un peu cette dilution là. Donc voilà le petit message que je voulais faire passer. Et surtout, ce sujet de l'intelligence artificielle concerne tout le monde. Et il y a quelques jours d'ailleurs, le barreau du Val d'Oise, en partenariat avec le tribunal judiciaire de Pontoise, a organisé dans le cadre de sa journée nationale relations avocats magistrats, une conférence, une table ronde sur effectivement l'intelligence artificielle à l'épreuve donc de nos déontologies respectives. Donc voilà le petit message que je voulais faire passer, la petite actualité, c'est que l'IA va devenir et va poser de plus en plus de questions. Et on le sait tous que malheureusement, la législation ne va pas aussi vite que les outils numériques.
Oui, c'est une course, je ne sais pas qui court après, qui m'en prend là, en tout cas. Là, c'est quand même votre message concernant cette jurisprudence allemande et de la Cour suprême. Moi, je comprends quand même que pour l'instant, ça reste quand même positif. Je veux dire, vous êtes en train de nous dire que malgré tout, il faut qu'il y ait de l'humain pour qu'il y ait une protection. C'est ce que vous me dites.
Oui, ça reste positif, mais quand même, ça n'empêche pas quand même beaucoup de l'utiliser et de créer avec l'IA. Donc, moi, sur le côté vraiment, là, je sors du cadre juridique pur et vraiment sur le côté éthique et le côté créatif, on se pose quand même pas mal de questions. Voilà.
Et donc il y a ce droit d'auteur, il y a les voix.
Il y a eu un souci là aussi avec les voix off, des auteurs de voix off qui se sont ligués contre je sais plus quel outil d'IA, mais qui ont formé un collectif parce que leur voix a été récupérée par l'IA et pouvait donc enregistrer d'autres films, animations ou autres. Donc c'est quand même la perte d'un métier, d'un secteur. Donc voilà, tous ces aspects là posent vraiment question aujourd'hui et on n'a pas encore de réponse réponses juridiques claires à ce sujet-là.
Et d'ailleurs, en parlant des voix, je sais qu'il y a des collectifs qui demandent au ministre de protéger les voix françaises. Donc vous avez c'est raison, le législateur est très sollicité et va devoir se positionner pour effectivement protéger un pan, en tout cas, de la vie et des artistes français. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, dans lesquelles vous vulgarisez un peu, vous essayez d'expliquer avec des mots simples votre matière extrêmement technique, c'est ça?
C'est ça.
En droit des marques notamment.
Oui, exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui sont à venir où vous aborderez d'autres sujets?
Oui, il y a des épisodes, donc les épisodes sortent tous les 15 jours, donc là le prochain il sera dans une quinzaine de jours à peu près, un petit peu moins, et donc il y aura un épisode spécifiquement sur le droit d'auteur, un épisode spécifique sur l'IA, donc c'est les épisodes un petit peu bonus que j'appelle, voilà, une fois avoir expliqué effectivement le droit des marques.
Merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour les actions de vulgarisation que vous menez. Maître Christelle Niclet-Laja, merci à vous d'être venue à l'antenne d'IDFM Radio.
Merci Sonia, c'est un plaisir.
Est-ce que vous avez un petit message pour les auditrices et auditeurs?
Un petit message, effectivement. N'oubliez pas, en amont d'essayer de préserver de futurs conflits. C'est vrai qu'il est important de consulter en amont pour éviter d'avoir des conflits postérieurs. Donc l'utilité de la consultation est quand même extrêmement avérée à plein d'égards en prévention.
Merci pour ce rappel fondamental. Nous sommes sur un très joli département avec beaucoup d'activités économiques et on a la chance d'avoir des avocats au barreau du Val d'Oise qui interviennent en droit des marques, en droit des sociétés, en droit fiscal. Il y a de la compétence et n'hésitez pas à vous mettre en relation avec ces avocats. Merci à vous deux d'avoir été mes invités de Tous les droits, une émission par vous et pour vous. Je recevrai ainsi le premier lundi de chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Nicolas pour la technique. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée et excellente semaine à tous.
IDFM Radio, 98 FM.
Hard like a bullet, flying too fast, I couldn't catch it. Heart in the casket, you always knew it. The starting role, the main attraction. Got cameras flashing, like ooh. You got everybody's eyes and just for you. Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. La, la. Back off from the fella. Gabriella, back off, Gabriella. La, la. Cause, ooh. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. La, 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 la. Skin amaretto. I bet you taste just like the summer. Under the covers, me in the middle, overprotective of my lover. You made me wonder, like ooh. If you made all of these fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh. You could have anyone else you wanted to, but I'm begging you. Hands off, Gabriella, Gabriella, hands off, Gabriella. Back off, Gabriella, la, la, la. Cause, ooh, you can have anyone else you wanted to. I'm
fonctionne. Si tu veux tout lâcher, quand les problèmes s'additionnent. Et quand tu y auras peur, quand te joue un mauvais tour, tu trouveras ailleurs un peu de réconfort. Juste un peu d'amitié pour te sentir plus fort. C'est comme ça qu'on s'est trouvé.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Esperándote, tengo el borde todo lo que soy. Y como te llevo hasta el punto de no volver, pide lo que quieras, te lo doy. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Estoy gustando más de lo normal y que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa.
playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
IDFM 98FM.
J'ai le flot du même chant dans